Bon, alors, pour la deuxième moitié de cet après-midi, nous passons donc à deux autres sujets. Et je peux vous présenter d'abord le professeur Paolo Fabbri de l'Université de Venise qui va vous parler sur les signes énigmatiques et le dialogue oraculaire. Et Monsieur Fabbri m'a prié de ne pas dire plus qu'une seule chose, c'est-à-dire que son livre le plus récent, Le tournant sémiologique, vient d'être publié chez Hermès récemment.
Merci. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et je dois dire que, Dieu merci, les colloques ont à l'intérieur des raisons secrètes des relations et de cohésion ou de cohérence, comme on dit. Et cette. Sinon, ce serait inexplicable. Et c'est que la personne qui m'a précédé a fait allusion à un livre de Urbino, 77, et auquel j'ai participé. J'ai participé à ce colloque à l'époque. Et c'était le centre de sémiotique, de linguistique de l'Université d'Urbino qui l'avait organisé et qui a laissé, comme vous voyez, une trace positive qui me permet de reprendre et de m'y référer. Mais en réalité, la raison fondamentale pour laquelle je suis là, je pense dans l'idée de Stella, c'est que le centre Jernet était rue Messier-le-Prince et le centre de sémiotique était au premier étage, tandis que le centre de Vernon était au rez-de-chaussée. Et voilà, donc c'est un contact sûr sur lequel je voudrais donc vous garantir que ça a été l'occasion de nombreuses rencontres et que ces rencontres ont été presque toujours relativement heureuses, même si plutôt méthodologiques et parfois humoristiques. J'ai un souvenir de JP, étant donné que tout le monde se rappelle de lui, j'ai un souvenir très précis. Le jour où il m'a montré comment Héphaïstos boitait. Et vous savez qu'Héphaïstos ne boitait pas comme tout le monde le croit, il boitait comme ça et comme ça, et Vernon était dans cette reproduction d'Héphaïstos absolument imbattable. Bien, alors si vous me permettez, je ferai donc quelques remarques et avant de m'attaquer à mon brève intervention. Qui est sur la réflexion sur relire. Alors, qu'est-ce que c'est que re? Alors, vous savez très bien que ça veut dire répéter, mais non, ce n'est pas le cas. Re veut dire, enfin, dans notre langue, dans nos langues, qu'on peut recommencer par le début, ou recommencer par la fin, ou recommencer par le milieu. Donc, on peut commencer par les origines de la pensée de Vernon, on l'a fait, Meyerson, par exemple, a joué un rôle sûrement fondamental. Sûrement, on peut commencer par la fin et continuer ce qu'il a fait, mais on peut recommencer par les moitiés. Alors, je vous propose de recommencer par un moment, à la moitié de son travail, et vous verrez, ce sera sur la question de la divination, qui m'a toujours fortement intéressé pour des raisons professionnelles. Les sémioticiens sont particulièrement intéressés aux signes de la divination. Alors, mais pour tout, pour simplifier les choses, pour les dire de façon la plus claire. Moi aussi, je pense que l'œuvre de Vernon a été un shifting point, comme on dit, étant donné qu'on peut parler anglais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de virtualités qui ont été partiellement actualisées et qui ne sont pas tout à fait réalisées, que donc, voilà, ça c'est notre tâche, est de réaliser des virtualités. Vous savez toujours qu'en réalisant des virtualités, en réalité, on les refait. Alors, j'ai entendu parler du phare, alors si je dois moi-même me servir d'une métaphore, je dirais que Vernon était un signal que je prendrais moi comme solidement implanté sur les sols de la culture classique grecque, mais que, Dieu merci, il pointait ailleurs. Et c'est donc dans cette idée, que ce signal qui pointe ailleurs, que je vais un peu réfléchir sur ce que je peux, moi, comme sémioticien, non spécialiste, Dieu sait, de la Grèce ancienne, qui essayait de réfléchir. Évidemment, on l'a dit très bien, d'ailleurs, à une question qui a été posée, le problème du comparatisme est extraordinairement compliqué et comme vous savez très bien, quelqu'un comme Foucault a inventé l'idée de hétérotopie qui m'a toujours paru une bonne formule, c'est-à-dire de dire qu'on regarde l'autre, mais c'est en réalité, à travers le regard de l'autre, hétéros, c'est on regarde soi-même. Donc les regards hétérotopiques, c'est on se déplace ailleurs, mais pour mieux analyser ce que nous regardons. Donc voilà, le comparatif vrai est hétérotopique. Naturellement, il n'y a pas d'utopie, sinon ça devient de l'exotisme pur. Et ça, c'est la première qualité. Et la deuxième, c'est d'être constructif. Le problème fondamental du comparatif, c'est qu'il doit construire. Pour construire l'objet, le seul problème compliqué, c'est qu'il faut avoir des idées générales. Le concept de communication, comme nous avons entendu, est un concept général. C'est un concept métalinguistique, il ne fait pas partie de la nature. Il n'y a pas de communication en nature. Nous avons décidé qu'il y a des phénomènes de communication. Bien, les cellules, paraît-il, communiquent, mais enfin, ce n'est pas exactement comme les gens qui parlent. Donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment fondamental. Penser qu'en effet, les Grecs sont des sauvages comme les autres, mais que les Grecs ne sont pas des sauvages comme les autres. Et donc, c'est à partir de là que je voudrais réfléchir un instant. Je voudrais réfléchir sur la nécessité donc des concepts plus généraux qui nous permettent l'hétérotopie et la comparaison. Alors, je l'ai fait à partir de la réflexion que Vernant, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, mais ça ne veut absolument rien dire, c'est dans les livres collectifs « Divination et rationalité », Seuil, 74, Vernant introduisait un projet comparatif sur la divination. L'introduction était la sienne, parole et parole singulier et signe pluriel muet. On y trouve soigneusement distingué les niveaux du savoir oraculaire, science prophétique, c'est lui qui dit science prophétique, ou instance de légitimation religieuse et politique à l'intérieur des différentes cultures, la Grèce, évidemment, la Mésopotamie, la Chine, etc. Voilà, ça c'était le livre que j'ai réfléchi. Et la chose qui m'a paru la plus importante, c'est que Vernant appelait ces types de pratiques divinatoires type des rationalités. C'est un concept intéressant et curieux sur lequel que j'ai vu apparaître, mais que je ne vois pas beaucoup réapparaître chez les postérités de Vernant, et sur lequel je voudrais un tout petit peu m'interroger pour donner de cette définition, type des rationalités, une version personnelle, sémioticienne, à laquelle vous aurez le droit de vous opposer en protestant le plus vivement si possible. Alors, le problème, donc, c'est la suivante. La divination est, si vous lisez la littérature anthropologique, une notion qui n'a pas eu du succès. Elle n'a pas eu de succès comme les mots « mythe », par exemple, les mots « rite », les mots « sacrifice ». Voilà des mots de succès. Les mots « divination » n'en a pas eu. Et pourtant, s'il y a une activité, disons, humaine, dans toutes les cultures traditionnelles, eh bien, et dans la nôtre d'ailleurs, c'est bel et bien la divination. Donc un projet comparatif serait en principe pensable, mais c'est vrai que ça demande effectivement des recherches plus approfondies, d'un côté sur la Grèce évidemment, que je connais mal, mais sur laquelle je réfère aux travaux de Julia Sissa sur la pitié, les travaux de Détienne sur Apollon au couteau, les textes de mon ami Pucci, Piero Pucci, sur les oracles, qui m'ont paru toujours très intéressants. Mais aussi, il y a des recherches de plus en plus étendues, c'est un objet qui prend dignité anthropologique, Mésopotamie, Chine et surtout l'Afrique. Évidemment, le travail sur l'Afrique, qui est imposante actuellement, il y a eu en 2005 un colloque à Leiden qui a réuni tous les spécialistes sur le sujet, vise à faire ce qu'on appelle aujourd'hui des recherches émiques et non des recherches éthiques. L'opposition entre émique et éthique, c'est phonémique et phonétique, et c'est-à-dire non pas la rélevation de la sonorité, mais des traits pertinents. Donc c'est des questions participantes qui relèvent des traits pertinents et non pas simplement des reconnaissances, si j'ose dire, des descriptions anthropologiques extérieures. Qu'est-ce qu'il émerge dans ce type de travail, tel que j'ai pu, par d'autres amis anthropologues, le reconnaître? C'est l'idée d'une très grande ambition épistémologique. Et l'idée qu'on peut repenser les sciences humaines à partir d'une réflexion sur la divination comme capacité humaine de prémonition du futur, par exemple, repenser le passé et démontrer la causalité dans le présent. Ambition épistémologique forte qui a amené des gens très, très, très loin. Par exemple, mon ami et collègue Ginsburg, un jour, a dit que le paradigme des sciences humaines est un paradigme inductif. Et étant donné qu'il est un paradigme inductif, il vient des sciences divinatoires. Alors donc, ce qui est amusant, parce que ça veut dire tout simplement que toutes les gens qui s'intéressent des sciences humaines font des inductions, et en plus, donc nous sommes tous des divins. Voilà, donc ça, c'est satisfaisant que cette généralisation. Alors je voudrais m'inscrire en faux sur l'idée que les sémiotiques soient nécessaires, le concept de signe, soit nécessairement relié à l'inférence logique, mais ça, je crois que ça se verra dans quelques démonstrations. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que, quoique cette ambition soit forte, je le dirais par une métaphore, il y a des portulans qui arrivent de tous les côtés en anthropologie, mais il y a très peu de cartes. Les portulans se multiplient, mais les cartes sont pauvres. Le seul effort, qui d'ailleurs, da quelqu'un qui avait participé aux travaux d'Urbino à l'époque, est de Dario Sabatucci. Dario Sabatucci, c'est un spécialiste italien très connu d'histoire de la religion, qui a écrit un beau livre sur la divination, et son livre sur la divination, Divination et cosmologie, en 89, est quand même une tentative très large d'une confrontation systématique et d'une analyse des phénomènes de la divination assez large. Je m'excuse, mais je n'en connais pas beaucoup de cet savoir sur le monde classique. Le texte de Sabatucci analyse la divination comme phénomène social total, on l'a dit aujourd'hui, mais évidemment, il y a, de ce point de vue, des difficultés considérables à isoler son objet. Évidemment, il prend un point de vue sur lequel je veux revenir, mais je peux énoncer tout de suite, l'opposition entre lire et écrire. Pour lui, il y a la divination qui écrit et la divination qui lit. Voilà, ça c'est sa catégorie fondamentale. Et étant donné qu'ici nous ne sommes pas à évaluer les détails, parce que nous n'avons pas le temps et la capacité, mais de penser les catégories sous-jacentes, je crois qu'elles ont quand même un certain intérêt de montrer, par exemple, que les analyses qu'il fait sont différentes de les catégorisations grecques, pourtant il connaît bien, mais il connaît mieux peut-être Rome, le système romain, et qui oppose d'un côté une parole mantique, si vous voulez, d'un côté, et de l'autre une parole politique, négociale, etc. Alors donc, pourquoi un sémioticien? Mais parce que les sémioticiens sont persuadés que, pour des raisons mystérieuses, qu'ils s'intéressent à des systèmes et des procès de signification, qu'ils ont beaucoup à apprendre, non pas à donner et à restituer quelques questions générales et parfois oisives. Alors donc, je pense tout simplement à la sémiotique comme un organon, non pas un canon canonique, mais un organon, essayer de penser des modèles et d'offrir des modèles et qui sont plutôt des questions à laquelle les autres peuvent répondre. Je ne nie pas que les questions sont déjà toujours des réponses à d'autres questions, à des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des questions, et aux questions on répond. Voilà. Bon, alors, revenons donc à Vernon, et je pense que dans son texte, vous connaissez Divination et rationalité, il avait beaucoup insisté, avant de revenir sur la notion de rationalité, sur l'idée, il dit lui-même, qu'il y aurait d'un côté, disons, la Grèce, qui avait fait, par rapport à d'autres cultures, une utilisation assez réduite, par comparaison, de la divination, qui était évidemment marquée par la grande opposition entre la parole prophétique, parole qui traverse les paroles mantiques d'un côté et de l'autre côté les systèmes d'écriture, mais que surtout, Vernon disait, d'autres d'autres grandes cultures, comme celle surtout chinoise et celle mésopotamienne, avaient, disait-il, réussi, je voudrais les citer, et les techniques d'intelligence oraculaire destinées à prédire le futur et à, où j'ouvre les guillemets, décrypter l'univers comme s'il s'agissait d'un texte où se trouverait inscrit l'ordre du monde. Il serait, disait-il, ça une science générale graphique. Grâce à l'invention des signes graphiques, la montique prendrait la forme, dit-il, d'une science générale des signes, inscrite, bien sûr, dans les rapports entre les savoirs et les pouvoirs. Voilà, donc l'idée de Vernon, c'était d'idée qu'en est-il de cette science générale des signes. Je crois que Vernon n'a pas repris cette formule, non plus, et donc il serait intéressant de se demander, étant donné que nous demandons où il pointait Vernon, je crois que ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'y revenir. Bien, alors, si vous êtes d'accord, réfléchissons un instant et voyons quelles sont les catégories. Évidemment, une fois qu'on a décidé qu'on parle de la parole et qu'on parle des signes, il est évident qu'on a une théorie du langage et on a une théorie des signes. Chacun dit qu'il l'a. Je donne un exemple assez simpliste. On a parlé avant de Turner, de Victor Turner. Si vous prenez son livre « Révélation et divination », Turner dit très franchement « Je m'inspire aux travaux de la philosophie du langage de Black et de la tradition post-saussurienne » et il cite entre autres Barthes. Et de façon assez étonnante. Les livres de Divination et Revelation and Divination in Nembo Rituals, Nembo Rituals, des populations de la Zambie, eh bien, c'est une des 75, donc il est véritablement contemporain au travail de Vernon. Alors, donc, vous voyez, il faut se poser donc des questions, parce qu'une fois qu'on rentre dans l'idée de faire une théorie, science générale des signes, on est évident qu'on a une hypothèse sur les signes. Je vous en donne deux qui me paraissent curieuses. Turner lui-même, à un moment, il affirme qu'il est très post-saussurien, mais après, pour distinguer les symboles et les signes, prend Jung, c'est-à-dire la distinction jungienne entre signes et symboles, qui, comme vous connaissez, n'est pas très payante du point de vue d'une analyse des sciences générales des signes. De l'autre côté, je ne sais pas, par exemple, Barbara Tadlock, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, oppose des actes, dit-il, des signes représentationnels, qui font de la représentation, et des signes présentationnels. Alors, vous voyez donc, il y a des stratégies différentes. Si on rentre là-dedans, quel type de linguistique, quel type de sémiotique porte avec soi ? C'est de façon très simple. L'exemple, la plupart des cas, et on l'a vu aujourd'hui aussi, on se sert de l'instrument lexicographique. Et vous voyez que si vous réfléchissez dans ces termes-là, vous êtes très, non pas très surpris, du fait que les Grecs, pour les signes oraculaires, avaient un lexique très pauvre. À part Séméion, qui couvre un peu tout, Oinos, le signe de, disons, l'hospice, c'est-à-dire le vol des oiseaux, le terme le plus récurrent, c'est Teras. Et Teras couvre un monde énorme, on le traduirait monstrum en latin, mais Teras couvre un terme énorme, et Teras, en réalité, couvre ce que, par exemple, en latin, les latins ont une véritable abondance de termes dans ce sens-là, je vous donne quelqu'un, omen, monstrum, ostentum, portentum, prodigium, etc. Et donc il y a dans la culture latine un déploiement de concepts, et je crois que si on les traitait peut-être non pas comme des mots, mais on les articulait, comme a fait d'ailleurs Benveniste dans son très grand article sur le vocabulaire des présages dans la culture latine, on pourrait les réarticuler d'une façon raisonnable. J'espère pouvoir donner un exemple, qu'on peut montrer comment étant donné que le lexique couvre, si j'ose dire, c'est des arrêts sur images, sur mots, sur différents types de textes, on pourrait peut-être démontrer qu'on pourrait, avec ces mots, cataloguer quelque chose que les Grecs ont exprimé sans avoir besoin de les nommer. Bien, venons maintenant à la question fondamentale, à mon avis, qui est la question de la rationalité. Pourquoi Vernon s'est engagé sur cette question de la rationalité? Alors, évidemment, une partie, c'est à cause du scandale que la prévision oraculaire porte à la rationalité grecque. Si la Grèce est le lieu de la rationalité, qu'en est-il de la divination? Qu'en est-il d'une parole prophétique, etc., etc. Je trouve que c'est une remarque tout à fait peu intéressante, mais elle est récurrente et continue à agiter aujourd'hui les classements des anthropologues et leurs réflexions. Tous les livres classiques de Evans Pritchard sur les hasardés, c'est-à-dire l'un des grands textes fondamentaux sur la divination oraculaire, est fondé sur l'idée que les hasardés ne souhaitaient pas si fous que ça. Ils n'étaient pas si irrationnels. Et tous les livres destinés, il est resté comme une pierre miliaire dans l'histoire de l'anthropologie, l'idée que finalement ils avaient leurs bonnes raisons. Et que si, empoisonnant un poulet, on pouvait avoir une réponse du type « oui, non », dans le sens « il meurt pas », à une question fondamentale pour la vie de quelqu'un, eh bien que parfois le poulet mourait trop tard, parfois il n'arrivait pas à comprendre s'il était mort, parfois il paraissait mort et puis il se reprenait, et que donc il y avait des problèmes très délicats. Mais que la plupart des conséquences que nous aurons tirées du point de vue logique de ce type de fonctionnement n'intéressaient pas les hasardés, qui s'est limité à l'utilisation, l'extension de la cohérence logique au domaine même de ce type de discours, et qui ne pensait pas qu'il fallait généraliser cette logique à tout l'ensemble du discours. Voilà la réponse de Vernon. C'est à l'intérieur d'un type de rationalité non généralisable qu'on peut imaginer qu'il y a cohérence et consistance. Donc l'idée de type de rationalité est en réalité la réponse que va donner Vernon et qui lui épargne de rentrer dans des débats du type. Je donne quelques typologies que j'ai lues dans la plus récente littérature sur le sujet. Mantique opposé à inductif. Calcul opposé à possession. Alors, il est évident qu'il y a des pratiques, par exemple en Afrique, il y a des pratiques de transe, il y a des pratiques de calcul très sophistiquées. On peut penser aux célèbres analyses de Bascom sur le système IFA, qui est un des plus compliqués du point de vue technique et plus raffiné, qui est comparable au Hiking chinois. Mais si nous acceptons cette hypothèse, nous retrouvons de façon systématique ce type d'opposition. Il y a plus que ça. Récemment, des anthropologues m'ont fourni peut-être une des occasions de rire la plus considérable que j'ai eue récemment, après les Phaistos de Vernon, c'est-à-dire l'idée que, étant donné qu'il y a une autre rationalité, il y a la rationalité autre, comment on va les justifier? Mais c'est très simple, il faut, cet anthropologue lui-même était devenu devin, il avait pris ce rôle, il a dit, il y a de la télépathie, la télékinésie existe, et peut-être s'est fondée sur d'autres parties du cerveau, donc on renvoie la balle au cognitivisme fondé sur la structure du cerveau, ou bien sur la physique quantique. Voilà. Donc vous voyez, le problème d'avoir opposé rationalité et rationalité n'est pas du tout une question morte. L'idée c'est qu'est-ce qu'en est-il de la divination, de la prétention des hommes, par exemple, entre autres, de trouver qu'il y a une raison par laquelle on peut, par exemple, découvrir une sorcière assassine par les raisons toutes simples de prendre, comme on fait, prendre la bière avec la victime, de se promener dans la foule, et puis quand la bière s'arrête devant quelqu'un, ben c'est quelqu'un, lui, c'est l'assassin. Bon, ça dépend de qui la transporte, vous direz. Mais oui, évidemment. Et ça, c'est codé à l'intérieur d'une culture déterminée. L'autre solution, c'est d'introduire des concepts comme celui de Bourdieu, qui a beaucoup de succès maintenant aux États-Unis et même chez les anthropologues, en disant, mais non, la question fondamentale, c'est l'essence de la pratique. Avec, on décharge la rationalité dans la direction du sens, ben oui, de la pratique. Alors la pratique, elle vient à la rescousse, parce qu'elle est systématique, mais en même temps, elle est articulée sur le faire. Et donc, à ce moment-là, on fait une conversion de la rationalité en sagesse. Ils sont capables, non, bien sûr, étant donné que nous pensons tous que nous connaissons et que les autres croient, eh bien, dans leur croyance, que nous ne croyons pas, eux croient, que dans notre croyance, il y a quand même, dans leur croyance, il y a de la sagesse. On est disposé à leur accorder de la sophrosune, maximum, pas plus que ça. Or, ce n'est pas le cas. Si on regarde les livres de François Julien sur les Vikings, on est très frappé de ce qu'il appelle, lui, une pensée forte, c'est-à-dire une articulation très forte et très articulée. Donc la question qu'il pose, ce n'est pas qu'on va, comme on dit les Italiens, attribuer aux sauvages un pensiero debole, c'est-à-dire on les crédite d'une pensée faible. Au contraire, c'est éventuellement la possibilité de reconnaître quoi ? D'y reconnaître une rationalité à l'intérieur de sa propre pratique, et là c'est la force de Vernon, à mon avis, de reconnaître que les techné mantiquées peuvent être traduites dans une techné rhétorique. C'est-à-dire que la force du modèle de Vernon, c'est de démontrer que la parole inspirée, soufflée, qui traverse évidemment la pitié, elle est reprise à l'intérieur de la communauté, discutée, comme les cas de Thémistocles que tout connaisse, les cas de Crésus chez Hérodote, que tout le monde connaît, rediscutée dans la communauté, à l'intérieur d'une pratique rhétorique. Voilà la force du modèle de Vernon, d'avoir compris qu'il y a une rationalité rhétorique, une rationalité mantique, et que ces rationalités ne sont non simplement, si j'ose dire, traductibles, mais qu'elles sont articulées les unes sur les autres. Voilà l'idée, à mon avis, extraordinaire de type de rationalité chez Vernon. Mais si vous acceptez que ce soit vrai, à ce moment-là, vous avez une idée différente, c'est-à-dire l'idée, à mon avis, qu'il s'agit en réalité des modalités discursives, j'appelle discours en général, hein, comme on dit les Italiens, discorrere come correre, c'est-à-dire que il y a donc une des modalités discursives, comme celle de la mantique, il y a des techniques, il y a des mots, il y a des signes, etc. Il y a des corps, il y a de la musique, et que dans ces types d'activités ont une syntaxe, une organisation rhétorique spécifique, des raisons, des dépendances internes, et que qui sont comparables, homologables, traductibles, et qui peuvent faire jeu avec ce que nous connaissons trop bien comme techné rhétorique. C'est-à-dire l'idée de Vernon, et là, le problème vient de son intérêt politique, et de traduire les problèmes de la rationalité en problème de politique. Mais ce faisant, Vernon lit l'idée qu'il a, c'est la cité qui traduit la Sibylle, la Pythie. Mais à ce moment-là, par cette opération, il découvre tout simplement qu'il y a des technés rhétoriques en conditions réciproques d'incompatibilité, mais de traductibilité. Voilà, à mon avis, l'idée force de Vernon, qui malheureusement n'est pas repris. Par exemple, Pucci, dans son travail sur l'oracle, qui est formidable, il met en évidence, si vous voulez, la dimension inspirée. Son travail sur Cassandre est un exemple parfait. La réponse qu'aurait donnée peut-être Vernon, c'est de dire Cassandre, j'exagère, hein, je lui fais parler comme on a fait avant, qui m'aurait dit sur l'escalier de Monsieur le Prince, et il aurait dit très probablement, personne ne croit à Cassandre parce qu'il n'y a pas une instance rituelle dans laquelle son discours soit vérifié et il n'y a pas un débat public dans l'Assemblée dans laquelle son discours soit vérifié. Donc elle peut dire tout ce qu'elle veut, le vrai et le contraire. Alors donc, c'est une hypothèse que je fais, je ne pense pas que ce soit évidemment, mais la question fondamentale de Vernon était comment des savoirs et des pouvoirs s'articulent dans une culture. Question foucaultienne, comme on dit, mais qui n'est pas foucaultienne du tout, elle est vernandienne, et à mon avis qui pose la question donc, voilà. Alors, maintenant, une autre question intéressante, voilà, ça c'est pour que concerne, et maintenant venons à un autre problème qui me paraît important et sur lequel les sémioticiens pourraient donner peut-être quelques suggestions. Surtout à cause du rôle qu'elle a joué dans la divination mésopotamienne. Dans les mêmes textes que vous connaissez, Divination et rationalité, Bottero dit que pour un mésopotamien, pour un devin mésopotamien, le monde était écrit en caractère cunéiforme, la nature même. Donc on le lisait comme ça. Il était déjà écrit, si j'ose dire. L'opposition est faite entre, d'un côté, la parole oraculaire, la parole dialogique de l'Assemblée, et de l'autre côté, l'écriture. Et les thèses de Bottero, j'exagère un peu, hein, mais vous me corrigerez, est que finalement, c'est parce qu'on a écrit, on a inscrit dans sa compétence la mentalité de l'écriture qu'on a pu, après, construire des systèmes mentiques caractéristiques. J'en suis pas persuadé. Si on va dans des cultures très, très, disons, de la, on dirait primitive, dans la Zambie, par exemple, comme on a dit, ou dans les communautés sur lesquelles ont travaillé deux anthropologues bien connus par Vernon, qui les cite explicitement, Adler et Zamplini, sur les oracles, eh bien, dans ces cas-là, on a des systèmes très articulés, très complexes, des ethnomathématiques très avancées, si j'ose dire, qui ne sont pas liées nécessairement à l'invention de l'écriture. Ce n'est pas à cause de ça. Première chose. Deuxième chose qui me paraît plus importante, aujourd'hui on essaye, en réalisant la Chine classique, de faire une corrélation entre simplicité des techniques oraculaires et complexité des techniques oraculaires devant la complexité de l'État. Ils essayent de relier non pas l'écriture, mais la question étatique. Encore une fois, l'hypothèse me paraît absurde, parce que justement, les Andes ne font pas de la même façon. Alors, donc, quelles sont les possibilités que nous avons d'offrir cette réflexion, non pas à l'écriture et à la parole, mais ce que j'appellerais, moi, la parole et le diagramme. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y aurait une diagrammatologie, c'est-à-dire une théorie diagrammatique qui fait que, par exemple, on peut tracer un espace et puis voir s'il y a des animaux qui ont laissé des traces, ou tracer un espace dans le ciel et voir dans quelle direction passent les oiseaux. Ça, c'est du diagramme inscrit. Il n'y a pas besoin d'écriture. Donc, la question qui se pose aujourd'hui pour les anthropologues, c'est comment travailler avec des substances d'expression différentes qui ne soient pas nécessairement l'écriture, ni phonétique, ni idéographique. Cette relation est importante à poser. Elle est posée directement par les pratiques oraculaires, par ce que Vernon appelle la science oraculaire. Bien. Alors, j'aimerais bien dire que s'il faut faire ça, il faut avoir une idée un peu plus générale, et je crois que les sémioticiens pourraient donner quelques coups de main. Alors, je pose des questions des sémioticiens. Vous me les permettrez. Et d'ailleurs, j'ai été invité pour ça. La première chose sur laquelle il faudrait réfléchir, et sur laquelle tout le monde réfléchit maintenant, c'est non pas les systèmes de signes utilisés par une culture, mais le fait quelles sont les attitudes qu'une culture a par rapport à ses propres systèmes de signes. Alors, le premier lieu de l'enquête est, par exemple, pour le latin, c'était simple. Scripta manent, verba volant. Voilà, donc vous voyez, donc on a par rapport à ses propres signes une attitude assez précise. Alors, la réflexion, à mon avis, qui va médiatiser l'efficacité mentique passe par ce que nous appelons, nous en sémiotique, les épistémés, c'est-à-dire non pas par les systèmes de signes que nous utilisons, mais par l'attitude que nous avons par rapport à notre système de signes. Par rapport au langage, et nous savons tous que notre culture a changé de façon radicale. Omen, nomen, non est omen pour notre culture, n'est-ce pas? Bien. Donc, première réflexion là-dessus. Et là aussi, il y a une sorte de méta-épistémé sur lequel il faudrait réfléchir. Quel est le méta-épistémé? Je trouve cette méta-épistémé dans les travaux de Descola. Descola suggère, d'une façon qui me paraît intéressante, de traiter une partie des pratiques oraculaires, non pas sous le mode de l'animisme, mais de l'analogisme. C'est-à-dire, devant un monde parsemé par singularités compliquées et non reliées les unes les autres par des systèmes définis, voilà donc qu'on est obligé à inventer des systèmes classificatoires, donc prolifération de la taxonomie devant un monde dispersé. Donc voilà, problème intéressant. Si une attitude pense, si une culture pense soi-même sous les modes analogistes, comme par exemple la Renaissance, dans le célèbre chapitre qui ouvre les mots et les choses, par exemple, à ce moment-là, les systèmes, cette culture-là, sont corrélés, cette macro-culture, cette épistémée-là, sont corrélés à une pratique systématique de la mantique. La mantique oraculaire est particulièrement développée dans les cultures qui ont, par rapport aux signes, une attitude analogique et non pas de type animiste. Voilà donc une méta-épistémée. Et puis, culture par culture, chaque culture et historiquement, il y a des variations d'épistémée. Les changements en Grèce, ce qui préoccupe Paul Pausanias, c'est l'idée, est-ce que Pausanias avait, par rapport à ses signes, aux signes de la culture grecque, les mêmes attitudes d'avant? Non pas s'il avait les mêmes idéologies culturelles, s'il avait, par rapport aux signes, à la valeur des signes, la même attitude. Vous savez qu'entre le Moyen-Âge et l'Illuminisme, il y a deux attitudes plutôt différentes. Vous savez très bien que les choses vraies, réelles dans le Moyen-Âge, c'était le ciel. Les restes étaient de la misère pure, n'est-ce pas, misérable. C'était presque pas les choses étaient inexistantes, étaient là par prétexte, n'est-ce pas? Tandis que dans une culture de lumière, c'est exactement le contraire. Les choses comptent, et puis le reste, c'est de l'invention. Je simplifie. Je dis tout simplement qu'il y a des variations culturelles importantes par rapport au système des signes. Alors, qu'est-ce que offrirait, et je donne les exemples, et avec ça je termine, qu'est-ce qu'offrirait, par exemple, un sémioticien sur, de façon que la lecture des textes de la Grèce ancienne lui offre quelque chose à penser, et si lui-même peut offrir quelque chose à penser. Je donne deux exemples d'une grande simplicité, et c'est la aide extraordinaire qu'a donnée d'Étienne aux sémioticiens pour penser qu'est-ce que ça veut dire ces mainei. Alors, il y a une tendance déplorable chez les sémioticiens, avec des modèles qui viennent de la pragmatique américaine, de penser que le signe est par définition inférentiel. Alors, c'est très fort, la sémiotique. Or, si vous regardez les travaux de Détienne dans Apollon au couteau, pour simplifier les choses, alors, devant la phrase d'Héraclite, le seigneur de l'oracle qui est à Delphes ne révèle l'égéi, ne cache cryptei, mais fait signe, c'est maïné. Voilà, dans le chapitre 6, le chemin de la parole, ce que dit Détienne. Détienne, avant tout, accomplit l'opération très simple de choisir entre les deux composantes possibles de tout système sémiotique. L'un, c'est la spatialisation et l'autre, la temporalisation. Au lieu de se préoccuper du temps, c'est-à-dire de la question du futur, Compucci, par exemple, Détienne s'intéresse de l'espace et s'interroge sur les signes de l'espace. Il dira donc que les signes, que j'appelle moi argonautiques, c'est que Apollon installé à Delphes, pour Il lit ses meinen comme indiqué d'un geste et laissé entendre. C'est-à-dire que les signes, c'est en réalité les temistewei, rendre l'oracle, est une indication ouverte qui ne connaît pas exactement le début et la fin du geste, mais qui connaît toute la précarité du parcours. Qu'est-ce que ça apprend aux sémioticiens et qu'est-ce qu'ils y reconnaissent? La première chose, ils reconnaissent la force déictique, au sens fort grec du terme, la force déictique de ces maïnei. Ces maïnei n'est pas représentatif ni inférentiel, il est déictique. Deuxième, la force de type perlocutoire, nous disons, c'est-à-dire la force d'illocution, c'est-à-dire que c'est une force. Alors, comment y arrive d'Étienne? En introduisant à côté d'Apollon, Thémis. Thémis doit poser de manière créatrice, nous dirons, elle est morphologue, et Apollon est syntacticien. Il rend l'oracle, il donne l'indication ouverte, et il offre cet oracle, non pas à des gens qui viennent lui poser des questions pour la cité, là d'Étienne se met de côté de Vernon, mais il dira qu'il donne des oracles à tous les gens qui lui posent des questions, vagabonds, fondateurs des cités, etc., qui lui demandent des questions sur l'espace. Où aller? Où est-ce qu'on va? Et la réponse de Semaine est « Suis ma voix ». J'ai traduit évidemment le terme grec, c'est-à-dire que les Semaine n'aiment pas une reconnaissance, comme on croit aujourd'hui, par attitude au signe des représentations. C'est une force illocutoire, c'est une deixis d'orientation qui, on pourrait... il avait déjà fait le travail d'Étienne avec Poros et Tecmor, déjà autrefois. Mais ça, ce n'est pas la question. C'est ce que je voudrais maintenant, avec vous, voir si on peut utiliser le vocabulaire latin, comme je vous avais dit, avec Benveniste. Alors, voilà, très simple. Prodigium. Mais prodigium, c'est la dit très bien de Benveniste, c'est ait. Pro, ait, ait, c'est la parole. Il dit, voilà. Donc, voilà la voix divine, elle arrive. On commence par les prodiges. Tout de suite après, on montre la bonne route, ostentum, si elle est proche. Mais si on désigne un parcours riche de signes, c'est portentum, parce que port a la fonction d'une ouverture et d'une durativité de l'espace offert devant vous. Voilà donc que nous pouvons établir un parcours sémantique et montrer que les Grecs l'ont résumé sous les mots peraterras, mais que les Latins l'ont réarticulé en mettant des étiquettes sur l'organisation sémantique qui est montrée par le discours de Détienne. Je suis peut-être en retard.
Peut-être.
Oui, non, vous me le dites. Non, je suis en retard, donc je termine avec une chose d'une grande simplicité. En quoi pouvons-nous aider les comparatistes? Et c'est très curieux, je termine, je vous le promets avec ça, avec une confrontation qui vous paraîtra bizarre. On dira, bon, ben maintenant, le projet de Vernon, c'est de confronter la Chine et la Grèce. Comment est-ce qu'on fait? Mais regardez, Détienne analyse avec soin, toujours dans les mêmes chapitres, les caractères affector, faire aller, deixis, indication. Affector n'est pas simplement faire aller, n'est pas l'indication déictique, c'est la poussée. Les Italiens disent très bien avvio, dare l'avvio. C'est mainein, conjoint l'acte de parole et le cheminement actif. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel l'oracle fait cresterion, c'est-à-dire est un lieu de consultation et de réponse, le chresmos, la réponse du Dieu dans son accomplir, est en réalité déjà une force agissante de l'action. Donc, affector, c'est l'incoatif est en même temps une semaine, c'est un dire, c'est un dire de la signification, mais il est l'incoatif de l'action qui suit. Donc, le terme couvre en même temps l'oracle, la réponse de l'oracle et, si j'ose dire, l'avancée, les débuts d'avancée, la mise en branle de l'action elle-même. Eh bien, c'est exactement ce que dit Julien dans son livre sur les I Ching. Il parle beaucoup de ce qu'il appelle J. Mais je m'excuse, je suis incapable de prononcer les I selon les cinq tonalités. Là, c'est la tonalité 5. Je m'excuse, imaginez-les phonétiquement. Il dit ça, les débuts infimes. Qu'est-ce que c'est les débuts infimes? C'est-à-dire, c'est on tire un hexagramme, et cet hexagramme J est les débuts infimes de l'action. C'est les moments d'entreprendre l'action elle-même. Alors, si vous avez une théorie de l'aspectualité, si vous avez une théorie de l'incoativité, si vous pouvez penser que le même discours n'est pas perlocutif ou illocutif, mais il est capable d'être en même temps les débuts infimes du faire aller, eh bien, vous avez réussi à mettre, à confronter du point de vue sémantique deux cultures, l'une très différente de l'autre, et peut-être de les faire communiquer. Merci.